Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Actu DevOps. Aujourd'hui, on accueille un petit nouveau, c'est René qui nous rejoint. Bonjour René.
Bonjour Christophe.
Et je suis aussi avec Erwan.
Bonsoir.
Et on va vous parler des actualités qui sont là depuis la dernière fois, c'est-à-dire octobre, puisqu'on enregistre cet épisode le 3 novembre, et on a quand même pas mal de choses aujourd'hui, on a plusieurs actualités là-dessus. Mais avant ça, si tu écoutes ce podcast et qu'il te plaît, est-ce que tu peux nous aider et le partager aux membres de ton équipe ou même aux membres de ton entreprise, ça pourra diffuser et puis nous faire connaître. Alors, Erwan, tu vas nous parler de quelque chose et ça nous rappelle en fait un épisode de podcast qu'on avait eu sur le ransomware. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé, je crois, mais pas celui-là.
Ouais, on avait déjà parlé des attaques de ce type-là il y a quelques temps. Il me semble que c'était Damir qui avait mis le sujet sur la table. Là, je vais vous parler d'une attaque qui a fait pas mal de bruit parce que par son ampleur et par la boîte qui est visée. Donc là, c'est Sopra Steria qui a été victime le 20 octobre dernier d'une attaque via un ransomware. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ransomware, c'est quoi? C'est un petit logiciel malveillant dont le but est de chiffrer une partie du système, des data, des backups, whatever. Et qui, une fois qu'il a fait son travail de chiffrer, vous allez recevoir un mail qui va vous dire « Ah, bah, tu as vu, tu n'as plus accès à ces données. Si tu veux avoir la clé pour y avoir accès à nouveau et pour pouvoir déchiffrer les data, paye X bitcoins sur tel compte. » Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette attaque, elle a visé Sopra Steria. Alors, les gens qui utilisent ce genre d'attaque, alors, je ne suis pas un expert, mais ils ne choisissent pas n'importe qui et par hasard, et c'est souvent parce qu'ils savent qu'il y a moyen de faire plier les gens en face. Et Sopra Steria, ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est une grosse SS2I française, mais qui est introduite en bourse, etc., qui gère tout un tas de clients étatiques, hôpitaux et tout. Enfin, c'est vraiment une boîte importante de l'IT en France, donc du coup, c'est pas anodin. Alors, le ransomware dont Sopra Steria a été victime, il s'appelle Ryuka. Et en fait, c'est un ransomware qui est visiblement connu de la communauté puisqu'il avait pas mal frappé en 2018. Alors, quand moi je lis ça, je me dis « Oula, mais c'est un truc d'il y a 2 ans, ils se font avoir, etc. » Et en fait, non, c'est une espèce de fork, on peut dire, de ce virus-là. Et c'est ce qui fait que tous les systèmes antivirus et de protection que Sopra pouvait mettre en place n'a pas détecté la signature de cette mutation. Donc, qu'est-ce qu'a fait ce ransomware? En gros, il a exploité une faille de zero logon qui en fait a permis de compromettre les données de l'Active Directory. Donc vous imaginez qu'à l'échelle de ce genre de boîte, ça bloque pas mal de choses. Et donc du coup, énormément de... Enfin, tous les services qui sont connexes à l'Active Directory étaient impactés. Sopra Steria a communiqué assez vite sur le fait qu'ils avaient été attaqués, sur le fait qu'ils étaient en cours de couper la propagation de ce ransomware, etc. Et ils ont travaillé de pair avec les éditeurs d'antivirus pour que la signature soit reconnue partout, pour que d'autres gens ne se fassent pas se fasse pas avoir. Et je crois que c'est le 26 octobre, j'ai lu des choses un peu différentes. Ils ont communiqué comme quoi c'était réglé, mais par contre qu'il y avait un temps de convergence pour retrouver tout ce qu'il fallait, qui allait être assez long. Et en fait, le truc, c'est qu'il reste pas mal de flou autour de cette histoire, puisque finalement, on ne sait pas trop comment ce ransomware est arrivé sur leur réseau. On ne sait pas trop si c'est lié à du social engineering ou autre, ou des actes purement malveillants venant de l'intérieur. On ne sait pas s'il y a vraiment eu des fuites de données non plus. Et encore une fois, c'est quand même un point assez important vu le type de client qui gère. Donc ça reste un peu flou. Et alors le truc qui est hyper cocasse, c'est que quelques jours après avoir été attaqué, etc., il y avait la publication des chiffres. Et on voit que une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, puisque les résultats pour la partie IT ont chuté de plus de 13%. Donc c'est un peu l'angoisse. Alors je ne sais pas si vous avez déjà connu ce genre de situation, un petit peu de crise comme ça, à gérer ce genre d'attaque ou de chantage ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils ont payé, hein. Forcément, on ne le saura jamais. Mais je ne sais pas, René, est-ce que ça te parle, ce genre d'histoire qui n'existe pas que dans les films, du coup ?
Ben, malheureusement, oui, un petit peu. Donc, j'étais pas l'acteur le plus impacté, mais dans mon ancienne société, donc en 2017, on a un client, un gros client de la logistique, qui a eu un problème un peu similaire. Donc, c'était le ver NotPetya, donc un ver qui venait à première vue d'Ukraine. Donc, ça a infecté une des filiales ukrainiennes de cette société. À première vue, au niveau de l'Active Directory, donc c'était un peu, je suis pas un spécialiste, mais au niveau sécurité, c'était pas forcément bien segmenté. Le ver s'est répandu partout et il a donc chiffré tous les systèmes bureautiques, une partie des serveurs Windows. Voilà, je pense qu'il faut faire attention parce que déjà, ça arrive pas qu'aux autres. Ça a été, pour l'avoir vécu donc un tout petit peu de l'intérieur, moi j'ai donné quelques coups de main à mes collègues parce que j'étais pas directement sur ce compte-là, mais du coup on a quand même mobilisé du monde pour essayer de restaurer des systèmes, parce qu'une fois qu'ils sont crypto-loqués, ça veut dire les restaurer, il faut faire attention, il faut être sûr que le ver il soit bien éradiqué pour pas qu'il revienne. Enfin, ça a été un gros bazar. Je pense que ça a coûté très très cher. Il y avait une cellule de crise qui était basée à Londres. Voilà, vraiment quelque chose d'assez compliqué. Et ça, pour le client, ça a été plan B, entre guillemets. Une grosse partie de la bureautique, elle a été faite, ils sont revenus un petit peu au mode papier, crayon. Mais chose intéressante, c'est quand même, je pense qu'il les a en partie sauvés, c'est que c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément parler trop dans la sécurité. C'est moi j'appelle ça la diversité de l'IT. Et en fait, là, ce qui a sauvé un peu ce client, c'est que son cœur de métier, sa logistique, elle était basée sur un système VMS qui, lui, n'a pas été chiffré. Donc, du coup, il a quand même pu maintenir une activité pas normale, hein, forcément dégradée, mais suffisante pour que ce soit pas une catastrophe totale. Donc, moi, je pense qu'il y a des sociétés qui, par exemple, pour leur bureautique, font du tout Windows, ou pour des serveurs font du tout Windows aussi. Je pense qu'il faut être prudent en termes de diversité. C'est comme dans la nature, hein, dès qu'il y a un virus, plus Windows, c'est vraiment le système le plus ciblé. Donc du coup, ça devient vite problématique. Et je pense qu'apporter un peu de diversité, alors souvent ce qu'on dit, c'est que ça coûte cher parce que il faut supporter ces différents systèmes, mais à mon avis, c'est très peu par rapport à un cas comme ça. Quand ça arrive, je pense que c'est vraiment la catastrophe et ça coûte une fortune. Voilà. Donc, moi, je suis assez pour dire si mettre un peu de diversité dans les systèmes, c'est bien. Après, même au niveau Linux, hein, si on est que en Linux, pour moi, c'est aussi la même problématique. Je pense qu'on peut panacher un petit peu les distributions. On peut utiliser du FreeBSD aussi à certains endroits et je pense qu'en termes de sécurité, c'est mieux. Voilà. Après, je suis pas non plus un expert sécurité, mais c'est des choses que j'entends assez peu parler par les gens de la Sécu et je serais curieux de savoir leur point de vue. Voilà.
Alors, moi, j'ai eu un client, en fait, pour lequel je maintenais un serveur C-File. Donc C-File, c'est un équivalent à Dropbox ou à Nextcloud. C'est un serveur de synchronisation de fichiers. Et en fait, un jour, c'était une start-up, hein, ils n'étaient pas beaucoup, j'étais le seul ops qui m'occupait et de ce C-File-là et de leur application web aussi. Et il y a une des filles qui m'appelle et qui me dit « Christophe, j'ai un problème, j'ai des documents du C-File, ils sont tous chiffrés. » Je dis « Mais comment ça se fait et tout, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle me dit « Bah en fait, je crois que j'ai chopé un virus il y a un mois et j'ai essayé de m'en sortir et tout, et j'ai pas vu ce qui se passait, j'ai pas réussi. » Je fais « Il y a un mois, mais tu m'appelles que maintenant en fait ?» Et en fait, pendant un mois, elle a essayé de réparer les choses toute seule. Et en fait, c'était tellement tard que si je restaurais la base de données, et ben en fait, on perdait plein de choses. Donc, je lui ai demandé de voir si elle ne pouvait pas restaurer avec la... Parce qu'il y a une corbeille en plus, il y a une corbeille dans C-File, et il y a un historique, de voir si elle ne pouvait pas restaurer les historiques des fichiers. Mais en fait, depuis, j'ai jamais eu de nouvelles. Et de toute façon, la boîte, elle est fermée entre-temps. Elle était déjà pas bien. Ça, je pense que tu as dû lui donner le coup de grâce. Mais là, le truc, c'est qu'il ne faut pas attendre, en fait, quand on a ce genre de choses et qu'on n'est pas tech ou qu'on n'est pas la personne qui est la plus à même de réparer le problème. Il faut vraiment prévenir les gens qui ont les sauvegardes pour les repasser, quoi. Parce que là, du fait, comme ça avait chiffré ces données, que c'était synchronisé, ça avait chiffré les données de tout le monde au final. La partie qu'elle partageait, parce qu'il y avait des parties qui n'étaient pas partagées. Mais bon, comme elle bossait avec le directeur, elle avait accès à plein de données un peu sensibles. Donc faites attention, hein, si vous voyez qu'il y a un truc qui est chiffré, attendez pas plusieurs jours, hein, prévenez tout de suite. Et surtout coupez votre ordinateur d'internet.
Ouais, et faire des sauvegardes offline.
Oui, faites des sauvegardes offline, c'est bien. René, toi, t'es la première fois que tu viens dans ActuDevOps et tu t'es dit, bah en fait, comme c'est la première fois, je vais essayer de rattraper mon retard, je vais amener plein d'actu. Donc tu nous as amené plein d'actu, donc on va les dépiler les unes après les autres, et puis ça va nous faire un petit épisode sympathique. En plus, aujourd'hui, on est trois, on n'est pas quatre, donc on a un petit peu plus de temps. Donc tu veux nous parler d'une première actu en rapport avec la saison automnale, je crois.
Alors oui, c'est l'actu un peu détente. En cette période de confinement, je pense que c'est pas mal. Ça peut permettre d'avoir un autre sujet, de se distraire un petit peu. En fait, c'est Coding Game qui est une plateforme de code en ligne, donc qui permet de s'essayer à faire de l'IA pour des jeux, etc. Enfin, du code. Donc ça permet d'apprendre le code, de se perfectionner. Alors c'est très orienté algorithmique, hein, quand même. C'est pas forcément, on fait pas forcément du parsing de JSON, des choses comme ça. Mais voilà, pour apprendre un langage, c'est vraiment une très bonne plateforme. C'est un peu ludique, donc ça permet de progresser assez. Enfin, en s'amusant. Et donc je pense qu'au moment où sortira cet épisode, ça aura peut-être légèrement commencé, mais ils ont un challenge là en automne de code. Donc l'idée c'est, alors on connaît pas le contenu du challenge, mais à l'avance, sinon c'est triché. Mais voilà, il va certainement avoir un combat entre des bots, donc il faut programmer son bot et essayer de progresser et d'essayer de faire la meilleure intelligence artificielle pour essayer de d'être le premier dans le classement, parce qu'il va y avoir un classement. Donc il y a un classement pour les écoles, il y a un classement pour les entreprises et un classement individuel. Donc voilà, bon, je suis pas trop habitué à ça. J'ai un peu joué avec la plateforme, mais ça va être mon premier challenge. Je vais essayer pour le fun, hein. Je vais certainement être très ridicule, mais voilà, c'est un truc un peu marrant, donc je vous conseille d'essayer si ça vous tente.
Alors, je viens de regarder la date. En fait, ça commence le 12 novembre. Et l'épisode qu'on est en train d'enregistrer sortira le 12 novembre à 8h. Et comme en fait, le Coding Game commence à 16h, je pense qu'il y a moyen que les premiers auditeurs et auditrices puissent y aller. J'ai jamais fait ça. Et puis, j'avoue que j'ai pas le temps pour faire ce genre de choses. Ça me tenterait bien. Peut-être pas pour ça, plus pour des trucs infrastructure. Je suis sûr qu'on peut faire des coding games infrastructure. Il faudrait que j'y pense un jour, organiser ça. Et toi, Erwan, est-ce que tu as déjà fait des coding games, des dojos?
J'ai jamais participé à ce genre de truc. Par contre, je suis régulièrement les résultats où j'ai des potes qui y participent, je regarde un peu ce qu'ils font et je trouve ça fascinant. Je me souviens quand j'étais chez Deezer, il y avait deux trois mecs qui quand faisaient vraiment régulièrement ce genre de petits challenges. Donc c'était assez cool à suivre. Mais si j'ai participé déjà à pas mal de hackathons, en revanche les coding games comme ça, jamais. J'ai l'impression que je serais pas hyper efficace et j'ai un ego mal placé.
Après, ouais, je pense qu'il faut. Ouais, il faut pratiquer après, hein, pour être bon. De toute façon, les bons, voilà, c'est pas leur premier challenge, ils en ont fait plusieurs. C'est sûr que la première fois, faut pas s'attendre à un super résultat, j'imagine. Puis souvent, ce qui se passe aussi, c'est que les gens qui ont déjà fait des challenges ont déjà fait du code qu'ils peuvent réutiliser, donc être plus forts. Et dans le même ordre d'idée, alors moins ludique, il y a une autre plateforme qui s'appelle Exercism. Je crois que c'est exercism.io. Mettra le lien, je pense, dans les notes, qui est donc pour le coup là c'est moins ludique, mais là on apprend plus du code, voilà, des challenges. Et là il y a la possibilité d'avoir d'un espèce de coaching, des gens qui viennent vous aider en fait si besoin, quoi. Donc c'est aussi une plateforme intéressante pour apprendre, quoi.
Ouais, moi ça me fait penser au coding dojo, parce que je traîne souvent avec des développeurs et je sais que les développeurs ils font des coding dojo, et je me pose des questions sur les coding dojo infra, type Terraform ou Ansible, est-ce que ça existe? Si tu nous écoutes et que tu connais des coding dojo, bah viens sur le forum des compagnons et viens nous en parler, parce que moi ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et en effet, tu vas nous parler de quelque chose qui va faire battre mon petit cœur de libriste, en tout cas de petit cœur de quelqu'un qui s'intéresse à l'open hardware.
Ah, d'accord. Alors la news open hardware, ouais, c'est un peu réchauffé parce que ça date un petit peu, mais c'est quelque chose qui est passé sur Foronix. Donc il y a un gros forum sur tout ce qui est Linux, etc., tech, etc. Et en fait, donc ça parle de risque 5. Alors je vais essayer de synthétiser, je vais probablement dire un petit peu des bêtises, enfin voilà, ce sera peut-être pas tout à fait exact, mais voilà, c'est pour synthétiser un peu. Donc RISC-V en fait c'est un jeu d'instructions qui a été développé par Berkeley, l'université de Berkeley, qui a été donc qui est libre et dont on n'a pas à payer donc de royalties pour pouvoir l'utiliser. Ça visait la recherche et les écoles. Il se trouve qu'il y a une communauté qui s'est créée, un peu comme pour le logiciel open source. Donc c'est de l'open hardware, et en gros les gens peuvent contribuer et essayer de faire une implémentation de ce jeu d'instructions et donc créer des processeurs. Donc on peut créer des processeurs avec des FPGA. Donc, il faudrait, je pense, un épisode entier pour tout expliquer, mais voilà, on peut se faire sa propre puce entre guillemets. Il y a aussi des sociétés. Donc une des premières, c'est une startup qui s'appelle Sci-Five, qui est une startup qui a commencé à faire on peut acheter du matériel avec un processeur RISC-V, des cartes de développement, donc on peut commencer à s'amuser. Pas mal. Il y a un autre moyen de s'amuser, c'est QEMU, il y a une émulation RISC-V, et Linux normalement doit tourner dessus. Donc un nouveau type de processeur, donc sans IP, donc qui est assez prometteur. Et ce qui s'est passé aussi récemment, c'est que entre les États-Unis et la Chine, c'est un peu tendu les relations commerciales. Et donc il y a des choses qui sont arrivées. Les États-Unis ont fait passer des lois ou je ne sais quel dispositif légal pour que les entreprises américaines n'utilisent pas de. Non, voilà, que les entreprises chinoises ne puissent pas utiliser de matériel américain. Donc il y a eu le problème par exemple sur Android. Donc sur Android, les Huawei a été impacté par exemple. Ils ne pouvaient pas forcément utiliser Android tel quel. C'est un peu compliqué. Et donc il y a la problématique sur les processeurs, notamment Intel. Et il y a une autre news qui est passée il n'y a pas très longtemps, c'est que AMD aussi a été cédé à Nvidia. Donc, du coup, AMD, qui était une entreprise britannique, si je ne dis pas de bêtises, possédée en grosse partie par SoftBank, qui est une entreprise japonaise, tout ça a été revendu à Nvidia et donc vient dans le giron américain. Donc, du coup, ça pose pas mal de soucis pour les entreprises chinoises. Et donc cette news là dont on parle, c'est Alibaba. Et Alibaba, ils ont développé donc un processeur basé sur RISC-V qui s'appelle le XT910. Voilà, et donc c'est un processeur qui est intéressant parce que jusqu'à maintenant, tous les processeurs qui étaient à base de RISC-V, ils avaient été, en termes de performance, ils n'étaient pas forcément super. Voilà, aussi performant que ce qu'on connaît chez AMD chez ARM. Là, et en fait, ce nouveau processeur commence à concurrencer en termes de performance des ARM Cortex A73. Voilà, et ce qui est vraiment intéressant, je trouve aussi, c'est que Alibaba s'est engagé à participer, entre guillemets, à améliorer, à faire des retours sur la communauté Open Hardware et à améliorer ce processeur. Donc, il y a un truc qui se passe, je pense. Moi, je suis ça depuis assez longtemps, mais voilà, c'est en train de se développer côté RISC-V et je pense que c'est intéressant. Et ça nous donnera peut-être dans le futur des alternatives à ARM, AMD et Intel. Voilà. Je ne sais pas ce que toi, Christophe, enfin, je sais que t'es pas mal branché à ARM, donc je pense que ça t'intéresse aussi comme
news. Oui, je suis pas mal branché à ARM. En effet, c'est ARM qui a été cédé.
Ouais, j'ai dit AMD, je crois que je me suis trompé.
Mais c'est pas grave, je crois de mémoire que j'en avais fait une trouvaille du vendredi. Donc si je retrouve le lien, je le mettrai en description. Et en effet, je suis assez branché à ARM, pas parce que c'est open source, parce que d'ailleurs ARM c'est pas open source, c'est sous licence. L'intérêt, c'est qu'en effet, tu achètes la licence et que tu peux faire ton processeur, donc il y a plein de fabricants qui peuvent faire leur processeur. Mais ce qui m'intéresse dans ARM, c'est la faible consommation énergétique et la taille minuscule que prennent les processeurs. Je ne sais pas si RISC-V, c'est le même ordre d'idée, qu'en effet, ça consomme peu et que ça ne tient pas beaucoup de place.
Oui, c'est un peu je pense que c'est un peu la même philosophie de faire des processeurs faible consommation, en tout cas, je pense.
Ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect écologique. Et ouais, comme tu le dis, le fait que les Américains aient les trois fournisseurs majeurs de processeurs, c'est un problème. Même s'il ne se passe rien pour nous, c'est un problème de comment ça s'appelle de
souveraineté, plus ou moins.
Non, de souveraineté. En l'occurrence, là, il n'y a pas trop de problèmes légaux, mais c'est plus un problème de métacorporation. J'ai oublié le nom. Bref, comme ils ont tout le marché, ils peuvent se permettre de prendre des choix pour les autres. Le fait d'avoir le RISC-V nous permettrait en effet de nous en sortir. Après, je ne sais pas dans quelle mesure les systèmes sont performants dessus. Et dans quelle mesure on peut balancer, par exemple, je pense à des conteneurs directement dessus. Est-ce que ça va tourner? Est-ce que ça va être plus lent? Ou ce genre de choses?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alors, dans l'état de... Je ne sais pas exactement aujourd'hui où on en est. Après, je sais qu'il y a du Linux qui tourne sur certains processeurs RISC-V. Je pense qu'il y a encore du boulot, mais ça petit à petit ça avance, je pense. ça va. Bon, aujourd'hui, c'est voilà, on est vraiment un peu dans le mode expérimental, mais voilà, ça ouvre une, enfin, je pense, de belles perspectives pour l'aspect collaboratif. Je pense que si ça se passe comme dans le logiciel libre, ça peut vraiment, enfin, on voit ce qui s'est passé avec Linux, donc ça peut vraiment se développer. Et puis le fait d'avoir une IP, enfin pas d'IP en tant que telle. Ça va, en termes de coûts, il y a des constructeurs qui arrivent à faire du volume, ça va certainement faire des processeurs relativement peu chers.
Ouais, ça c'est voilà. Vraiment une bonne chose, je pense.
Voilà, après, c'est un espoir, je pense qu'il faut, voilà, faut pas trop s'enflammer non plus, mais voilà, aujourd'hui on peut commencer à jouer, faire des choses, et c'est assez sympa, quoi.
Et Erwan, alors, t'en penses quoi, toi, de ça?
Je trouve que les perspectives, elles sont hyper intéressantes, mais par contre, c'est un peu la conclusion de René, c'est que pour que ça devienne des alternatives vraiment solides, etc., et qu'on pense à ça en priorité pour ces archis, j'ai peur que ça soit à vision très, quand même relativement long terme. Et parce que malgré tout, on reste drivé par les besoins de perf. Moi, je suis d'accord avec le point d'écologie, par exemple, qui est quand même important. Mais en vrai, on sait comment ça se passe dans les data centers, quoi. Et effectivement, après, le fait que bah, y a du taf pour permettre, aux prods actuels de façon très générale à pouvoir fonctionner sur ce genre d'archi. Donc il y a du chemin, mais par contre c'est sûr que c'est hyper prometteur et c'est bien d'avoir de pouvoir avoir ce choix à terme.
Après aujourd'hui c'est clairement le marché serveur, c'est pas, enfin, donc ça on voit avec la news que ça se développe notamment avec les acteurs chinois, mais aujourd'hui c'est plutôt l'embarqué, je pense, qui est visé dans un premier temps. Donc et là ça commence à être, je pense, assez crédible. On peut commencer à faire des solutions embarquées à partir de RISC-V. Voilà. Après, je ne suis pas spécialiste de l'embarqué, donc voilà. Il faudrait quelqu'un qui soit vraiment dans le domaine pour nous dire, mais...
Ce qui m'inquiète, c'est le monopole, voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, le monopole américain sur les processeurs et le fait que, du coup, nous, en Europe, on est perdu ARM, on arrive... Bah, du coup, on n'a plus de fabricants de processeurs, hein. Donc c'est terrible.
Je finis juste sur un dernier petit point. En France, on a quand même quelques constructeurs, notamment pas loin d'où j'habite, il y a une société qui s'appelle Calray. Donc Calray, ils font des processeurs multicore, enfin un truc de ouf. Voilà, donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, Calray, je pense qu'on mettra le lien. Ils font des choses intéressantes aussi. Des processeurs très spécialisés, voilà. Je sais pas exactement tout ce qu'ils font, mais voilà. Donc on a quand même on sait quand même faire des trucs côté processeur en France, voilà.
Et qu'on va passer à la dernière petite news qui va nous faire une transition parfaite jusqu'à la fin de l'émission. On va ne parler que de conteneurs et principalement de Docker. René, tu nous as préparé une petite info.
Donc il y a ma dernière news, oui. Donc c'est un document, donc c'est sorti fin septembre, un document de l'ANSI sur les bonnes pratiques pour sécuriser ses containers sur Docker. Donc c'est vrai que l'ANSI depuis quelques temps sort des documents assez récents. Et alors là je l'ai un petit peu survolé, j'ai pas fait mon travail jusqu'au bout, mais voilà, il y a des bonnes recommandations à ne pas tourner. Avec ces containers avec des privilèges en mode privilégié, voilà, des bonnes pratiques de sécurité, et ça rappelle pas mal de choses, ça permet aussi d'apprendre des choses. Et voilà, je trouve que ce que fait l'ANSI, c'est plutôt pas mal, même plutôt bien. Et donc voilà, petite news à partager, qui je crois aussi a été reliée par Xavki. Je pense que c'est bien de suivre un peu cet accu.
En effet, qu'est-ce que t'en penses, toi, Erwan? Tu l'as regardé, le document?
Et quoi qu'il arrive, moi je pense que c'est que des très bonnes initiatives. Enfin, c'est hyper important d'avoir ça. C'est surtout vu qu'on voit que c'est un peu les conteneurs, c'est un peu la foire. En vrai, il y a tellement de choses qui ne respectent pas un minimum de bonnes pratiques de sécu que. avoir des guidelines, avoir des choses auxquelles se référer pour être sûr d'être dans le droit chemin, je pense que ça peut que aider, c'est bien.
Moi, je trouve ça aussi super intéressant que l'ANSSI publie comme ça des livres blancs ou des guides de bonnes pratiques. Et je me demande dans quelle mesure ils les conçoivent et si on peut participer à la conception à travers un dépôt ou autre, ce qui serait vraiment génial parce que le nombre de techs en France qui pourraient participer à ce genre de choses pourrait être assez impressionnant. On pourrait arriver, en tout cas moi c'est mon envie à terme qu'on puisse avoir des choses comme ça sur la communauté des compagnons, mais je trouve ça très bien et d'ailleurs il est sur un coin de mon disque dur en attendant une lecture approfondie. Et donc, je vais passer à ma news, du coup, où je vais vous parler de Docker aussi. Puisque, en fait, il y a quelques jours, on s'en doutait, hein, puisque Docker avait annoncé ça, mais en gros, il y a quelques jours, on sait à quelle sauce on va être mangé dans la limitation de Docker. Alors, Docker a annoncé des limitations sur notamment la récupération des images sur son registre, donc le hub Docker, et une politique de suppression des images. Alors la politique de suppression des images, en gros, automatiquement les images inactives, donc qui n'auront pas été soit poussées, soit poulées, soit tirées depuis 6 mois, seront effacées. Ce qui veut dire que si vous envoyez une image et puis que rien ne se passe au bout de 6 mois, bah, l'image elle disparaît. Pouf, elle n'existe plus. Donc bon, quand vous la retirez, quand vous la poulez, bah, vous aurez une erreur. Mais alors ce qui est plus embêtant et ce qui fait vraiment parler, c'est que en gros Docker, à travers son hub, limite à 100 pools toutes les 6 heures si on n'est pas connecté au web. Ça veut dire que si on n'est pas connecté au web et qu'on fait un Docker run ou un Docker pool ou quoi que ce soit qui va aller récupérer une image, on ne pourra en récupérer que 100 tous les 6 heures. Alors vous me direz, bah 100 tous les 6 heures, on a largement de quoi faire, hein. Mais attendez, je vais y venir. Et si on est connecté au Docker Hub, c'est 200 toutes les 6 heures. Bon, alors évidemment, il y a plein d'acteurs, et notamment les majeurs, qui ont réagi là-dessus. Donc il y a Red Hat qui a fait un article, je vous le mets en description aussi, et qui attire notre attention, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé moi en l'occurrence, c'est l'intégration continue et le déploiement continu des projets open source utilisent souvent le pool anonyme. Ça veut dire que quand vous l'avez certainement déjà fait, quand vous utilisez une image ou quoi que ce soit sur GitLab CI par exemple, ça poule une image, et puis de manière anonyme, vous n'êtes pas encore connecté au Docker Hub. Donc, et puis la limite, elle est par IP. Donc imaginons que vous ayez une intégration continue à centraliser, et qu'il y a tout un tas de projets chez vous qui poulent les images à tout va, et ben la limite des 6 en 6 heures, elle est vite atteinte. Il y a une autre chose aussi, c'est que les agrégats Cube ou OpenShift, eux, quand ils lancent des pods, eh ben, ils vont forcément pouler une image. En fonction de la politique que vous avez mis dans vos manifestes, soit ça va le pouler tout le temps, soit ça va pouler uniquement si l'image n'existe pas. Mais en fait, dans un monde où tout est dans le cloud, si le nœud du cube, il est, comment dire, il disparaît et qu'il y en a un autre qui apparaît, ben, pouf, toutes les images, enfin, tous les pods qui vont être dessus vont repouler leurs images et puis on est parti pour pouler je ne sais combien d'images. Donc ils profitent évidemment de leur article pour parler de KIO, qui est leur solution d'hébergement de conteneurs et de sécurisation, parce qu'il y a un scan de sécurité aussi qui est fourni. Et il y a mon grand ami Amazon Web Services qui lui aussi a réagi. Il annonce en fait qu'il va créer un registre public, donc un grand registre public chez Amazon Web Services. Alors, dans ce registre public, il va être déployé, on ne sait pas encore quand, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que chaque développeur qui va pousser des images dans ce fameux registre, il aura en fait 50 gigas de stockage gratuit chaque mois. Toutes les personnes qui vont pouler des images depuis ce registre de conteneurs pourra pouler 500 gigas de bande passante gratuitement tous les mois. S'il a un compte AWS, il pourra aller jusqu'à 5 teraoctets. Et surtout, et l'information la plus importante, c'est que si les pools sont internes à Amazon Web Services, quelles que soient les régions, là, c'est illimité. Alors, on peut se dire 500 gigas de bande passante par mois, c'est pas mal, mais en fait, quand on est dans un monde où les images elles font 100 mégas, voire parfois 1 giga pour certaines, ça peut aller très très vite, voire même plus vite que les fameuses 100 poules toutes les 6 heures. C'est une autre manière de compter. Et alors, évidemment, dans tous les bons coups, il y a GitLab. GitLab, il vient d'annoncer que le proxy de dépendance, il sera gratuit, en fait. Il va passer dans le corps de GitLab. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop GitLab, il y a une partie core qui est open source gratuite. C'est-à-dire, si vous l'installez chez vous, vous pouvez l'utiliser gratuitement, elle est libre. Et sur GitLab.com, il y a la version core que vous pouvez avoir gratuitement. Et il y a des fonctionnalités soumises à licence. Et le proxy de dépendance, en fait, était une fonctionnalité payante. Et bien là, dans la prochaine version, la 13.6, qui sort le 22 novembre, donc approximativement 10 jours après la sortie de cet épisode, et ben vous aurez le proxy sur GitLab.com et vous pourrez justement télécharger une image qui sera directement hébergée sur GitLab. Il y aura donc du coup un cache des images Docker, mais aussi des paquets NPM, Maven, PyPy, ou tout un tas d'autres paquets qui sont communs dans les dépôts publics. On peut penser au paquet Debian, par exemple. Et en tout cas, moi, je pense que c'est une fonctionnalité qu'on va rajouter dans Frogit, parce que c'est un truc qui me plaît énormément, ça, nous rendre un peu autonomes de tous ces registres et autres, et d'avoir évidemment des miroirs qui soient répartis un peu partout dans le monde. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, tous les deux? On va commencer par René. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça?
Je crois que cette news a aussi été évoquée chez les cascodeurs. Une personne de Docker était venue en parler, et après, et pour eux, ça coûte cher aussi de faire le hosting de toutes ces images, surtout quand elles ne sont pas utilisées. Donc c'était un moyen de nettoyer, donc moi je le comprends. Je pense que c'est normal. Pour moi, on touche aussi à un autre sujet, mais là, bon, je pense qu'on va pas l'aborder, ça sera un épisode pareil en tant que tel. C'est un petit peu, quand on a un besoin, pour moi, quand on a un besoin professionnel, etc., il faut aussi, on aime tous manger à un moment, il faut qu'on mange, donc des fois, il faut prendre une offre commerciale pour, surtout si on en est vraiment utilisateur intensif, parce que voilà, tout ça, c'est si on peut prendre un plan, je pensais, Docker, et on n'a plus ces limitations-là. Donc voilà, donc moi, ça me paraît pas déconnant. Après les autres essayent de profiter de l'annonce pour faire aussi d'autres appels commerciaux, enfin d'autres offres commerciales plus différentes. Je pense qu'il des fois faut même pour l'open source il faut savoir contribuer financièrement pour que tout ça tienne, parce que in fine, il y a quand même des gens qui travaillent et qui ont besoin d'argent pour vivre.
Je suis assez d'accord avec toi, le fait de pouvoir purger les images régulièrement, c'est important, hein, parce qu'on ne peut pas laisser des images ad vitam aeternam comme ça. C'est vrai que si elles ne sont pas utilisées finalement en 6 mois, on peut se permettre de les purger, et de toute façon, comme a priori, on a un Dockerfile quelque part, on peut la recréer, donc c'est moins gênant. Ce qui m'embête le plus, moi, c'est le côté des images publiques, parce qu'en effet, là, ce que je vous ai raconté, c'est sur les images publiques, parce que quand on a un compte et qu'on paye chez Docker, on n'a pas ça. Mais toutes les images publiques qui sont utilisées par tout le monde, notamment les images de base, je pense aux images Debian ou Alpine, là, ça va avoir un très fort impact. Et j'ai noté quand même dans les notes là, que du coup qu'il va falloir qu'on fasse un épisode sur le financement de l'open source et du libre, parce que c'est un sujet qui, à mon avis, est pas assez abordé. Peut-être que il faudrait qu'on en parle pour échanger nos points de vue. Mais en effet, il faut arriver à financer le libre et l'open source d'une manière ou d'une autre. Je sais pas si c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais en tout cas, ça a le mérite de poser la question, du fait. Erwan, est-ce que tu veux réagir justement sur cette news?
J'avais vu passer et en effet, j'étais. Enfin, si je comprends le délire, hein, c'est normal. Ils n'ont pas un espace de stockage infini, en tout cas un espace de stockage gratuit infini. Et puis pareil pour les pools, ça reste de la bande passante qui peut coûter cher. Bon, si quelque part je comprends tout ça, le seul truc, c'est que. Ça me fait penser, enfin, et DockerHub, ça reste l'entité un peu centrale de repo en termes d'image. Et un peu naïvement, je voyais ça un peu comme le repo Maven, où on n'efface jamais rien, où ça fait que append ad vitam, pour s'assurer que si un jour, à un moment donné, on a utilisé un des trucs qui s'est retrouvé sur le repo, bah, on puisse toujours builder son projet. Et un peu naïvement, je pensais que DockerHub réagirait de la même façon, mais après, en vrai, commercialement, je comprends. Après. D'un point de vue personnel, la registry Docker, moi, je ne trouve pas hyper ouf. Même quand tu veux payer, tu as plein de problèmes avec le support. Donc, je suis pas non plus hyper convaincu.
Ouais, je pense qu'ils sont à la recherche d'un équilibre. Voilà, je pense que. Enfin, je sais pas où ils en sont au niveau financier, mais voilà, ils cherchent, je pense, un équilibre et c'est des règles pour essayer de bah, trouver la bonne adéquation entre faire rentrer quand même des revenus et puis limiter les dépenses, quoi.
Mais après, pour revenir sur les histoires des pools fréquents, moi j'imagine que les personnes qui sont vraiment impactées par ça, ils ont tous des caches d'images quelque part, quoi. Parce que sinon, si tu comptes sur à chaque fois faire des Docker pools depuis l'enfer, c'est pas performant non plus. Donc, et puis en termes de bande passante, de trafic, tout ça, enfin ça poussera probablement les gens qui se prenaient pas trop la tête sur ce sujet à réfléchir à ça.
S'ils n'avaient pas de cash, en tout cas, ils vont penser à remettre en place. Moi, ça me fait penser quand même, finalement, les paquets Debian, il y a des miroirs, enfin, les paquets Debian, la plupart des gestionnaires de paquets, Linux, il y a des miroirs, il y a des sources différentes, et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça, que les éditeurs open source et libres vont aller de plus en plus vers l'hébergement de leurs propres images, et comme ça qu'on va pouvoir pouler depuis plein de sources différentes. Et par contre, le côté des miroirs, c'est pas encore le cas. Je ne sais pas comment marchent les miroirs Debian ou autres, mais ce serait bien qu'on ait un système de miroirs sur Docker. Comme ça, on pourrait avoir des miroirs sur les continents.
Non, mais j'imagine que les histoires de miroir de DockerHub, c'est en fait être miroir de Debian, c'est entre guillemets facile parce que la volumétrie, de toute façon, elle va pas exploser. Alors que DockerHub, c'est juste l'enfer. Tu peux, enfin, moi je vois si vous voyez enfin, un des repos qu'on a sur DockerHub, c'est. Je comprends qu'ils mettent des restrictions comme ça. Nous, on a fait n'importe quoi dessus parce que c'est un truc de test sur lequel on s'amuse. Et forcément, si cette image qui est publique et tout, mais se retrouvait dupliquée sur 12 milliards de miroirs, en fait, on prend de l'espace chez tout le monde pour rien, quoi. Donc faire un miroir de DockerHub, c'est quand même plus délicat. Par rapport donc à Debian ou Maven. Pareil, faire un miroir Maven, c'est pas compliqué. Et puis après, tu as aussi l'histoire de bande passante, quoi qu'il arrive. Même si tu montes ton miroir, après, faire se manger 12 000 git pools d'images qui font 1 giga tout le temps, bon, bah, ça va te coûter cher aussi, quoi.
D'ailleurs, si vous avez des images qui font 1 giga, il y a probablement un truc à faire avec vos images. Ben justement, on parlera Parce qu'on a abordé la CI, on parlera de l'intégration continue et de la CI dans le prochain Radio DevOps, le Radio DevOps numéro 11, qui sortira la semaine prochaine, si je ne me suis pas trompé et si j'ai réussi à faire le montage rapidement. On arrive à la fin de cet épisode d'Actu DevOps, j'espère que ça t'aura plu, et en tout cas, si tu veux continuer à discuter sur ces actualités, tu peux nous rejoindre sur le forum des Compagnons, le lien est en description. Et moi, je dis à toutes nos auditrices et auditeurs à très bientôt, à la semaine prochaine. Et je vais vous laisser le mot de la fin et je vais commencer par René.
Ouais, je ne sais que dire. Je suis pris un peu au dépourvu. Je vous souhaite à tous une bonne écoute du podcast et puis j'espère que les sujets vous intéresseront. Et voilà, à très bientôt, j'espère.
Et puis moi, ce sera Mug.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt. La balado diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.